Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bon début de semaine à vous qui souhaitez participer à cette émission, le nouveau numéro de Parole aux auditeurs que vous offre Parole, disons Radio Capi, la fréquence de la paix. Le désaccord persiste dans le processus de désignation de membres de la CENI. Les six autres confessions religieuses, à part les catholiques et les protestants, ont déposé la semaine dernière le PV sur les consensus autour du nom du successeur de Colornay Nanga. Entre-temps, la CENCO et les CC ont, dans une correspondance adressée au chef de l'État, sollicité une audience et plaidé pour sa médiation afin de décanter ces blocages. Comment commentez-vous la démarche des uns et des autres? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 6330 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Jean-Claude Siala Mwana Makengo et Jocelyne Mukendi concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'interview.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne le révérend pasteur Eric Senga qui est avec nous. Pasteur, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous êtes le porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Vous avez accepté d'intervenir dans cette émission pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Alors, la plateforme Confession religieuse est une plateforme de la société civile, donc membre de la société civile, et de surcroît, elle est apolitique. Mais la démarche aujourd'hui d'aller voir le chef de l'État, est-ce une démarche politique ou une démarche citoyenne?
Disons que la démarche s'inscrit à deux niveaux. Au premier niveau, c'est sur fond des articles 68 et 69 de notre Constitution, puisque l'article 68 aligne le président de la République parmi les institutions de la République. D'ailleurs, c'est un ordre de priorité, s'il faut le dire, il est au sommet de l'exécutif et donc c'est lui la première institution du pays. Le deuxième niveau, c'est qu'il intervient comme partie prenante dans la procédure institutionnelle des désignations de l'animateur ou des animateurs de la CENI. Alors, le premier point, pourquoi il faut saisir le président dans la chaîne de la procédure institutionnelle? Simplement parce que nous avons d'un côté les parlements représentés par l'Assemblée nationale qui a les rôles d'entériner, j'insiste, les rôles d'entériner et non d'arbitrage et non de médiation, en tout cas à proprement parler en termes constitutionnels. La commission que l'Assemblée nationale mettra en place, notamment l'Assemblée, la commission paritaire sur fond de l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, cette commission n'a que la compétence d'examiner la régularité des PV, c'est-à-dire s'assurer que les documents déposés sur sa table est conforme et partant vérifier aussi la validité des candidatures des personnalités proposées. Après cette étape, il y a la Cour constitutionnelle qui va aussi vérifier la conformité à la Constitution de ces actes avant la prise d'ordonnance par le chef de l'État. Donc, si il est intéressé à ces niveaux-là, c'est d'abord à ces titres. Le deuxième niveau, l'article 69, lui attribue les devoirs constitutionnels, comme je l'ai dit, qui se résument en trois. Il est avant tout le symbole de la nation, de l'unité nationale. Il est aussi l'arbitre parce qu'il doit veiller, il doit assurer par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Et donc, de ce point de vue, lorsque la question commence à diviser la classe sociale, la société politique, la société civile, et là c'est la société religieuse qui est menacée aussi, il est important pour le chef de l'État, en vertu de la Constitution, par rapport à la sagesse, mais autant par rapport à, au symbole de l'unité nationale. Donc voilà un peu en résumé les deux raisons qui ont motivé
votre démarche
et l'ECC à pouvoir saisir le chef de l'État dans cette démarche.
Alors, d'aucuns fustigent votre démarche parce que la Constitution qui régule la vie politique repose sur la loi de la majorité. Le fait que, au niveau, au sein de votre plateforme, les 6 confessions religieuses qui constituent aujourd'hui la majorité ont déposé d'ailleurs les PV au niveau de l'Assemblée nationale, et ça vaut quand même son pesant d'or d'être accepté, et quoi que vous l'avez dit, et que l'Assemblée nationale n'a que le rôle d'intériner. Pourquoi ne pas intériner? Qu'est-ce qui empêcherait? Parce qu'il y a la majorité.
D'abord, il faut préciser sur ces points. On ne peut constater la majorité que dans la forme et les conditions prévues par la loi ou les règlements qui organisent une organisation. Nous sommes là dans une situation de la charte. On ne peut pas confondre une opinion des 6 confessions religieuses démocratiquement données à une majorité. Parce que, en fait, les gens peuvent construire une opinion, large soit-elle, mais si les assises sont floues, si les bases ne sont pas valables ou valides, et donc si nous partons du prédicat de la fausseté dans la donnée, on ne peut pas sous-tendre la validité d'une opinion qualifiée de majoritaire. Ça, c'est un. Des deux, on ne peut pas non plus parler de la majorité dans la mesure où il n'y a pas eu vote dans l'exercice de la démarche. Donc, c'est tout à fait normal que nous comprenions nos amis de donner une opinion générale, c'est vraiment leur point de vue, mais le problème ici de fond qui nous dérange, c'est que l'opinion est en train de mal interpréter l'article 17 de notre charte. La lecture faite à cet article se limite à dire simplement, s'il n'y a pas consensus, vous allez au vote. Mais je renvoie quiconque à la lecture minutieuse et attentive de cette charte. Il est dit ceci, on ne peut aller au vote que conformément à l'article 8 qui postule ou qui défend les valeurs. Les valeurs qui sont coulées dans l'article 8 sont notamment les valeurs d'intégrité, les valeurs de crainte de Dieu, les valeurs de sincérité, les valeurs de vérité. Donc même dans l'hypothèse du vote, parce que d'aucuns estiment que l'ECC et la CENCO auraient refusé les votes. Non. Nous ne pouvons aller au vote qu'à 3 conditions. La première condition, c'est lorsqu'on a vidé l'examen des formes et des fonds des candidatures. Ceci permet quoi? Ceci permet que les candidats qui seront en liste, c'est-à-dire sur la liste qui pourrait être soumise au vote, doivent remplir les critères d'éligibilité. C'est comme dans une délibération. Lorsque l'université fixe les critères de délibération à 40% ou à 45% pour l'étudiant, du moment où un étudiant se retrouve à 20%, il ne remplit pas les critères d'éligibilité, donc il ne fait pas l'objet d'analyse ou de vote. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on ne peut pas aller au vote sans résoudre des questions qu'on appelle des questions préalables ou des questions préjudicielles. C'est-à-dire, lorsque une question qui touche au fondement de la validité de notre mission, parce que de par la Constitution, l'article 211 donne le fondement à la CNI. Elle doit être essentiellement indépendante. C'est de là que découle le sens de la loi organique qui, en son article 12, veut que la personnalité à désigner soit indépendante. Tout cela rentre dans la logique juridique de notre arsenal qui régule le système électoral congolais. Et au niveau de la charte, pour rester conforme à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques, la charte conditionne le critère d'appréciation du candidat sur la base de l'article 211 de la Constitution, sur la base de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, et c'est comme ça que l'article 8 de la charte devient les indicateurs d'appréciation des griefs de personnalité du candidat. Mmh. Et du moment où les griefs retenus sur un candidat touchent essentiellement au caractère indépendant de sa personnalité, je m'excuse la tautologie, ça devient déjà un problème principal mmh. qu'on ne peut pas contourner par un vote. Ça, c'est ça l'élément important. Mmh. Donc, du moment où il y a ces problèmes, on ne peut pas prétendre contourner cette question préjudicielle ou préalable en proposant les votes. En ce moment-là, les votes deviennent comme un raccourci pour contourner la question principale. Et la dernière hypothèse, pour qu'on aille au vote, il faut qu'on reste avec des candidats en lice. Mmh. Or, dans ces conditions, il y avait 4 candidats sur la liste. Mmh. Le candidat de l'ECC, les candidats de la CENCO, les candidats de Kimbanguste et les candidats de l'armée du Sali. Nous n'étions pas dans l'hypothèse des 2 candidats à soumettre à un quelconque vote. Mmh. Ce qui nous a bloqué, c'est l'appréciation sur le grief. Mmh. Pour l'ECC et la CENCO, ces griefs sont susceptibles d'entacher l'indépendance du candidat et mmh. partant, ça touche même à la moralité publique. Pourquoi ? Parce que depuis 3 scrutins, on a toujours reproché aux confessions religieuses de désigner, même si nous ne partageons pas cet avis, ça c'est un autre débat, mais il a toujours été dit que ce sont le président de la CENI qui ne rendait pas les choses convenablement. Et donc mmh. pour nous, cette question n'est pas à relativiser. Les amis voulaient dire, non, les menaces, il y a eu des incitations, des abus de pouvoir, oui, mais cela n'était pas lié à la candidature, mais c'était plutôt lié au conflit interne, aux confessions religieuses qui étaient intéressées. Nous avons dit non. Les éléments que nous avons à notre possession sur ces griefs ne sont pas des soupçons, ni des allégations. Ce sont des témoignages, faits avérés. Ce sont des aveux. Rendu par les membres de la plateforme. C'est ce qui nous a conduit à produire les communiqués conjoints qu'on a qualifiés des
solidarités. Alors, soyons clairs, parce que les commets des mortels, la maman qui est à Massina ou la maman qui est à Gnocchi ou à ailleurs, c'est aujourd'hui que l'ECC, la CENCO, ne veulent pas de candidat Denis Kadima.
Moi, je voudrais même vous ajouter, si vous le permettez. Certains même disent que nous ne voulons pas de lui pour des raisons X ou Y.
Parce qu'il est Moulouba, parce que voilà, il serait soutenu par le chef de l'État.
Ça, c'est un. Les autres vont même plus loin pour parler des appartenances ethniques. Je voudrais apaiser les mamans, les papas, les Congolais pour nous rappeler, nous n'avons que le Congo comme patrimoine commun. Il n'y a pas un plus grand Congolais que les autres. Le Congo, c'est notre mère. C'est notre mère patrie, j'allais dire, c'est notre rêve collectif. Donc il faut qu'ils enlèvent ça en tête. Le problème de la CENCO, le problème que soulève la CENCO et l'ECC, et donc la présidence de la plateforme, réside dans le respect des normes. On peut dire que c'est un débat normatif et non subjectif. Nous n'avons rien de personnel contre notre frère Kadima. D'ailleurs, nous sommes en train de nous dire, dans le raisonnement plus avancé, nous ne devrions pas exposer notre compatriote qui a beaucoup de qualifications et qui peut bien aider ce pays à plusieurs égards. Parce que Denis n'a pas que des compétences en matière électorale. Il y a beaucoup d'autres compétences. C'est un fonctionnaire des Nations Unies. Mais nous sommes en train de lui rendre un mauvais service en le mettant dans les engrenages qui sont en train même d'entacher sa réputation au niveau international. Il faut que ceux qui jouent à ces jeux soient en tout cas prudent et qu'ils prennent la mesure de la chose.
Voilà, on va on va évoluer, pasteur Eric Senga, si vous l'autorisez. Nous avons des auditeurs qui ont désiré, en tout cas depuis hier, de participer à cette émission et d'être un peu éclairé, hein, d'avoir leur lanterne être éclairée. Je crois que c'est une occasion comme nous l'avons eu pour que nous soyons tous édifiés. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Parole aux auditeurs.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Maître Machaka, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Vraiment heureux de vous retrouver encore sur les ondes des Radio Okapi. Quelle est votre réaction après avoir écouté notre invité? Et vous avez réagi d'ailleurs en amont déjà depuis hier.
Merci beaucoup, monsieur JR, de m'avoir donné cette opportunité d'intervenir en conseil notre chaîne mère. Vous savez, monsieur JR, ce qui se passe au niveau des confessions religieuses, ça fait la honte, monsieur Gilles, puisque vous savez, aujourd'hui, quand on a donné cette responsabilité et donné la confiance à nos confessions religieuses, c'est parce que, premièrement, on sait que ce sont des serviteurs dédiés qui ont d'abord la parole dédiée dans leur poitrine, puisqu'ils ont la Bible, ils ont le Coran, ils ont tout dans leur poitrine, monsieur Gilles, et dans leur tête, ce qui ne pouvait pas aujourd'hui nous amener à ce que nous sommes arrivés, monsieur Gilles, puisque aujourd'hui, en tout cas, ça nous déçoit.
Oui, mais lorsque je suis en train de lire votre message sur notre page Facebook, vous avez dit que ce qui se passe à la, actuellement est contraire à son appellation. Ce n'est pas la CENI, il n'y a pas d'indépendance, il y a la politique qui a déjà pris tout en otage. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Tout à fait, monsieur Gilles, tout à fait, monsieur Gilles, puisque aujourd'hui, il n'y a plus d'indépendance, puisque aujourd'hui, dès qu'il y a ce tiraillement-là, monsieur Gilles, ce sont des politiciens qui influencent les confessions religieuses. Ils ne réagissent plus de leur propre indépendance, monsieur Gilles, puisqu'il y a toujours des tendances politiques au sein de nos confessions religieuses, puisque s'ils étaient indépendants, monsieur Gilles, ils devaient se mettre autour des mêmes tables. S'attendent, même s'il y avait des petits tiraillements, ils devraient s'arranger tellement qu'ils sont influencés par les tendances politiques. C'est ce qui nous amène à tout ça, M. Gilles. Ils ne sont plus indépendants. Ce n'est plus une institution indépendante puisqu'il y a toujours l'influence politique là-bas. Si une tendance politique qui voit que ses intérêts ne sont pas sauvegardés ou bien ne sera pas sauvegardé par une telle personne, un tel candidat, ils mettent toujours des crocs à jambes. Or, ce qui ne va pas faire avancer notre pays, M. Gilles. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes décis, puisque aujourd'hui, ça fait tous les délais qu'on les avait, toutes les échéances qu'on les avait données pour nous donner un candidat, c'est passé en vain. Alors, c'est pour cela que j'avais proposé, même sur votre, votre Facebook, en disant que c'est mieux de créer une commission ad hoc pour retrancher les confessions religieuses, comme ils ne sont pas à mesure de trouver une solution, puisqu'elles sont toujours bousculées par les politiciens. Or, ils doivent être apolitiques.
Mais la commission oui, paritaire a été créée au niveau du Parlement. Notre invité, le révérend pasteur Eric Senga, vient de balayer ça de revers de la main en disant que c'est contre la loi.
Aujourd'hui, monsieur Gilles, il y a parfois même un endroit où on dit qu'il y a des fois où on parle de l'ordre créateur du juge. Le juge peut se trouver devant une situation, mais devant un fait. Donc, il sait que s'il applique strictement la loi, il doit y avoir toujours des désordres. C'est à ce moment-là qu'on donne les rôles créateurs au juge. Il doit prendre une décision pour départager les deux parties, pour que les deux parties ne soient pas lésées. C'est dans ce cas où nous nous trouvons aujourd'hui, puisque quand on se base toujours sur la loi, au moment où il n'y a pas un compromis, et le pays cherche part toujours de conflit en conflit, de chaos en chaos. Nous sommes toujours au niveau de la nomination, mais de l'élection du président de la CENI. Maintenant, quand on va arriver maintenant au niveau des élections, l'organisation des élections, ou bien publication des résultats, ça sera plus pire, M. Gilles.
Voilà, merci beaucoup Maître Machaka. On va prendre Katiaï. Katiaï, vous êtes avec nous à Congo Central. Pardon, Kassai Central. Bonjour Katiaï.
Je suis en ligne.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Katiaï?
Merci beaucoup Monsieur JR pour la thématique du jour. Je voulais d'abord faire une mise au point, Monsieur JR, par rapport à cette thématique. La saisine du président de la République par les religions religieuses. Vous savez, Monsieur JR, lorsque il avait été question de trouver quelqu'un qui pouvait être président de la CENI en 2000 pour organiser les élections de 2018, beaucoup de confessions religieuses avaient refusé à ce que la candidature de Corneille Nangaa ne puisse passer. Mais parce que Corneille Nangaa était de l'ECC, ECC s'était imposé pour signer le PV et déposer ce PV-là à l'Assemblée qui a été entérinée et le président de la République avait pris l'ordonnance. De même maintenant, actuellement, c'est un candidat qui est refusé par ECC et SENCO. Les autres confessions religieuses ont émis le vœu de soutenir ces candidats-là et les deux confessions religieuses le refusent pour certains critères jusqu'ici qui ne sont pas élucidés et qui ne sont pas, à mon humble avis, sincères.
Mais vous venez de suivre tout à l'heure le révérend pasteur qui a évoqué des raisons.
Oui, mais les raisons que le révérend pasteur a évoquées...
Les critères de délibération, les critères de délibération.
Pour le candidat Kadima. Est-ce que vous voyez que ce sont les raisons là? Sinon, alors, comme ça, nous pouvons recourir à la candidature de Malonda, parce que quand on avait rejeté la candidature de Malonda, toutes les couches sociales vives de la nation étaient contre, s'étaient opposées. Et il y avait même des marches de toutes parts, que ce soit la majorité, l'opposition, société civile. Mais actuellement, quand la candidature de Kadima est rejetée par les deux confessions religieuses, ils ont compris tout simplement que ce sont eux, les deux-là, confessions religieuses, SENCO et ECC, qui se sont opposés. Mais tous les autres, tout le monde dans le pays s'oppose à cette candidature-là pour comprendre que, alors, les confessions religieuses doivent comprendre leur mission. Une Merci. Église au milieu du village. Saisir maintenant le président de la République pour qu'il puisse le départager, moi je trouve que la démarche n'est pas bonne. Pourquoi impliquer maintenant un politicien dans une chose spirituelle? Est-ce qu'il va amener la spiritualité dans
Est-ce qu'il s'agit de questions spirituelles ou bien nous sommes là sur le terrain du droit, du principe et aussi de la politique? Parce que quand la politique tient les droits à l'État, je crois que la politique prend toujours le dessus.
Alors, c'est comme ça que nous disons aux confessions religieuses. Pour moi, ce n'est pas bien de saisir le président de la République. Parce qu'on va saisir le président de la République pour lui dire quoi? Pour qu'il le départage par rapport à quoi? Parce que la mission leur est confiée, les confessions religieuses. De nous trouver
voilà. Alors, je comprends. Votre préoccupation, elle est directe. Pasteur révérend Eric, vous êtes avec nous. Vous avez suivi. Vous allez voir le chef de l'État pour lui dire quoi exactement?
Merci encore une fois, JR, et merci aux compatriotes pour la participation à ces débats. J'aimerais peut-être faire trois mises au point qui pourront nous aider à avancer. Et je crois que la première mise au point, c'est que nous devons éviter de subjectiver les débats. La question ici, c'est pas ce que dit l'ECC ou la SENCO, ou alors ce que soutiennent les six confessions religieuses. La question n'est pas qui est pour ou contre le chef de l'État. C'est pas une question d'amour ou de haine. Je répète, le débat est au niveau normatif. Nous devons tous nous assurer que ce que nous posons comme acte rentre dans le respect des normes juridiques de notre pays. La Constitution, la loi, ainsi de suite. Ça, c'est un. Les deux, je suis tout à fait d'accord avec nos compatriotes quand ils s'inquiètent. Ça nous inquiète tous. Mais il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le changement des paradigmes politiques. À un certain moment de l'histoire d'un pays, il faut savoir prendre les courages collectifs. À la fois d'assumer les passés communs, mais aussi et surtout de projeter les rêves collectifs. C'est-à-dire, ici, n'entrons pas dans les choses de dire qui est démon, qui est ange. Reconnaissons que nous sommes au quatrième cycle électoral. Les trois précédents cycles ont posé problème. S'il n'y avait pas eu de problème, on ne parlerait pas des réformes. S'il n'y avait pas eu de problème, on ne modifierait pas la loi. S'il n'y avait pas eu de réformes, le chef de l'État ne convoquerait pas les consultations en novembre en présentant la question de la CENI, la question de la crédibilité du processus électoral comme l'élément majeur qui a conduit à l'ingouvernabilité et même à la déchéance de la coalition FCC-CACH. Il faut qu'on évite d'avoir une mémoire courte, nous les Congolais. La question aussi aujourd'hui, on dirait que tout le monde oublie que nous sommes dans une tradition, nous sommes dans une, dans un cycle qui construit une tradition dans notre pays. Troisième mise en point, je rentre à maître. Je suis content quand c'est un avocat, un maître qui parle, un avocat. J'aurais bien voulu que maître en parlant, qu'il reste dans la logique du raisonnement argumentatif, hein, des, un peu juridique, parce qu'il est maître. Parce que quand nous prenons les choses pêle-mêle, je suis d'accord avec lui, quand il dit nous sommes des religieux. Savez-vous que le fait que les législateurs confient aux religieux la compétence de désigner le président de la CENI, quelle est la ratio legis et la motivation du législateur? C'est parce que le législateur estime que ce sont les confessions religieuses qui détiennent ce qu'on appelle l'ordre moral. C'est parce que le législateur fait confiance au jugement d'appréciation des religieux sur le candidat qui doit avoir la condition sine qua non d'indépendance. L'élément majeur, c'est cela. Puisque la substance institutionnelle de la CENI, en tant que telle, du point de vue constitutionnel et légal, c'est qu'elle doit être une institution indépendante. Maintenant, nous, quand nous jugeons, revenons maintenant sur le sujet, sur la personne, nous ne jugeons pas la personne en fonction de sa taille, en fonction de ses origines, en fonction de ses diplômes. Nous jugeons, nous examinons la candidature
en fonction,
en
des, critères.
Fonction des éléments coulés dans l'article 8 de notre charte. Nous devons nous assurer que les candidats qui sera président de la CENI, encore qu'il faille définir qui est le président de la CENI, c'est l'arbitre de la sincérité électorale. Il doit arbitrer une compétition électorale. Si déjà, comme l'a dit maître, au niveau de la désignation, je vais chuter par la JR, si déjà au niveau de la désignation, les religieux ne savent pas résister, ne savent pas dénoncer, à combien plus forte raison nous saurons résister lors de la publication des résultats?
C'est déjà un problème. Alors, pasteur, nous vous gardons en ligne. Kachai, je crois que vous êtes satisfait.
Bon, pas totalement, monsieur Gier, pas totalement, parce que...
Mais non, quel autre élément voulez-vous ajouter? Vous voulez quelle démarche alors? Vous avez refusé la démarche?
C'est celui du glissement qu'ils sont en train de préparer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kachai. On va prendre Jérémy. Jérémy, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gier. Bonjour également à l'invité. Je pense que ce feuilleton doit quand même prendre fin parce que...
Vous appelez ça feuilleton?
Pardon?
Vous appelez ça feuilleton?
Oui, donc, parce que nous en avons des trop jusque-là. Parce que moi, je me dis à un certain moment, en tant que les hommes de Dieu, parce que vous savez que les problèmes devraient se régler facilement au milieu de... Donc, c'est-à-dire au sein des hommes de Dieu qui est dans les politiques. Vous savez que les hommes de Dieu sont presque totalement les pères spirituels des politiques que nous avons aujourd'hui. Lorsque même le chef de l'État a son père spirituel, et lorsqu'il a un problème, il doit aller voir son chef spirituel. Mais lorsque le contraire arrive, voyez-vous là où nous sommes en train de partir. Moi, je me dis que...
Alors, comment commentez-vous cette démarche? La démarche menée par les uns et les autres, d'aller voir le chef de l'État et les autres qui sont allés voir l'Assemblée.
Ça n'a rien à voir parce que c'est le chef de l'État. Et lorsqu'il a un problème, il doit aller consulter les religieux pour avoir des conseils. Mais ce ne sont pas les religieux
qui doivent aller
ont été dans un consensus total.
Mais Jérémy, n'oubliez pas que nous sommes en politique. Nous sommes en politique.
Parce que moi, je me dis...
Oui, mais Jérémy, nous sommes en politique. La société civile est associée dans la vie politique.
Et d'accord, oui. Mais alors, je n'en disconviens pas, M. J.R. Moi, je me dis à ce stade où on est, il y a eu consensus, oui ou non? Oui. Mais lorsqu'il y a consensus sur 8, dans les 8 confessions religieuses, 6 votent en faveur d'un candidat X. Et il faut que d'abord que nous puissions étudier les candidats selon le profil. Moi, je ne pense pas que le profil d'un candidat ne doit pas lier à ce qu'il représente géographiquement, mais ce qu'il est, ses qualités. Morale, probité morale, il doit être quelqu'un de nature honnête.
Voilà, nous ne sommes pas dans une émission de critères, nous ne sommes pas là en train de définir le profil les profils, parce que tout est déjà bien dit dans le dans la charte qui oui. en fait régule la gestion de la plateforme des confessions religieuses. Et il y a également la loi sur la CENI qui définit en fait les règles du jeu. Donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Merci beaucoup Jérémy.
Oui, mais c'est va... bien.
Oui,
là je... où je me dis
oui. les débats aujourd'hui, l'échec. Est-ce qu'on a l'impression ouais. que la politique est en train de prendre des dessus sur les droits?
Tout à fait, c'est ça,
okay.
C'est vraiment noir sur blanc, parce que moi je me dis que aussi longtemps que le politique aura la main mise sur la société civile
n'aura pas un mot. Merci beaucoup. Alors Maître David, vous nous avez rejoint, vous êtes à Calémy. Bonjour Maître David.
Oui, bonjour.
Quelle est votre réaction Maître David?
Ouais, nous allons intervenir dans l'angle juridique et politique. Quelque part, nous allons intervenir aussi sur base des arguments politiques.
Parce que c'est
aux dispositions constitutionnelles prévues aux articles 69. Vous voyez, le président de la République assume des grandes fonctions. Du point de vue légalité, le président de la République peut... Il peut, sur base des dispositions des articles 69 et 70, le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Alors, le troisième alinéa suppose que le président de la République veille au bon fonctionnement et le respect de la Constitution. Mmh. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est-à-dire que dans ces cas sous examen, le président de la République doit poser des actions en tant qu'arbitre. Parce que ce qui se passe dans les religieux jusque-là, c'est comme si les confesseurs religieux sont divisés en deux blocs. D'une part, il y a des réfracteurs et d'une part, il y a ceux qui veulent avancer. Alors, le président de la République doit accepter la concession que les deux autres, donc les deux réfracteurs qui lui ont fait ce vendredi. Alors la concession là peut permettre afin que la machine ne soit pas bloquée, à mon avis.
Mmh. Donc il faut qu'à un certain moment que les chefs de l'État puissent s'impliquer pour que la machine soit débloquée pour nous éviter les glissements. Merci beaucoup David. Alors on va prendre Alain Bolojoie. Alain, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, sincèrement, je suis vraiment intéressé du débat, mais je me dis, nous devons éviter de nous poser de mauvaises questions aux vrais problèmes. Parce qu'en suivant tout ce qui s'est fait aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, si on ne veut pas parler et crever l'accès, on vous dit qu'il y a des gens qui se sont fait corrompre ou qui ont été tentés de se faire corrompre. Au lieu d'abord d'aborder cette question-là, on considère que l'on doit évoluer. Non, on n'évolue pas dans la forfaiture, on n'évolue pas dans la corruption. Parce que dès lors qu'il y a des gens qui ont battu campagne pour un candidat, moyennant l'argent, pour faire de lui président de la CENI, qui est appelé à organiser les élections crédibles et transparentes...
Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez comme allégation? Qui a des preuves qu'il y a des confessions religieuses qui avaient monnayé leur choix?
Non, mais les déclarations suffisent déjà. Parce que déjà au départ, on a cité le nom de M. Félix Tshisekedi par Sonny Kafuta, qui est encore vivant et qui n'a pas retiré ce qu'il a dit. On n'en parle pas. On vous dit que les évêques ont cité le nom des gens qui ont tenté de corrompre les votants. On n'en parle pas. Et ce qui est surprenant, toutes ces questions-là devaient être résolues par la réforme. Et aujourd'hui, on demande à M. Félix Tshisekedi, qui est déjà cité, de trouver une solution. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi gagne si on organise de bonnes élections que lui va échouer, qu'il va perdre? Ce sont là les vrais débats. C'est-à-dire que si nous voulons mieux faire les choses, prenons les référentiels, les lois, et non les faits conjoncturels. Parce que la loi vous dit, lorsqu'il y a corruption, le corrompu et le corrupteur doivent être arrêtés. Alors pourquoi devons-nous poser des questions du genre, non, voilà, tels ont raison? Non, la majorité n'a pas toujours raison. Et si on considère
le droit
comme référentiel, ceux qui sont majoritaires aujourd'hui l'ont été aussi hier.
Oui.
Parce qu'il s'agissait de Malonda, ils étaient 6 contre 2. Mais lorsque la société...
Malou, c'était pareil. Malou, c'était pareil. Nanga, c'est... Mais jusqu'à quand on continuera avec ces feuilletons? Parce qu'avec Nanga, c'était la même chose. Malonda, n'en parlons pas. C'est toujours un groupe de gens. Et la Senco avec l'ECC, à part.
Non, mais cela, pour mieux analyser cette question, il faut d'abord nous poser la principale question. N'avait-il pas raison? Parce qu'au fil, ils s'en sont rendus compte que Nanga était un fervent serviteur de Kabila. Et avec Malonda, on s'est rendu compte que Malonda aussi avait des problèmes. C'est-à-dire que quand on a combattu le mal pendant Kabila, on ne peut pas soutenir le mal aujourd'hui
sous Félix.
De pouvoir. C'est-à-dire que moi, je considère pour ma part que tout le monde qui analyse sur cette question a tendance à négliger l'important d'appliquer la loi. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi est partie prenante. C'est M. Félix Tshisekedi qui a envoyé tous ces gens-là s'organiser pour que M. Denis Kadima soit là où lui veut qu'il soit. Mais voilà, on nous amène dans ces débats-là.
Moi, voilà. Alors, moi, j'aimerais un peu voir clair dans cette affaire, parce que le candidat est présenté par une église, il est porté par une église, ou bien le candidat peut ou ne pas être membre d'une église quelconque, et peut être porté par une autre église, même là où il ne prie pas.
Non, le problème, c'est que la loi n'a pas dit que le candidat doit être membre d'une église. Mmh. La candidature doit être portée par une église. Mmh. Soyons francs, soyons sincères. Je connais Papa Timo Kimbangu. Je connais Kadima.
Et c'est Kadima, c'était Kimbangu.
Dans la vidéo qui circule, il a dit clairement, on leur a proposé. Mmh. Ce n'est pas que lui avait cette intention. Non, c'était une proposition qui est venue d'ailleurs. La question que nous devons lui poser,
qui a proposé,
tout en le respectant bien sûr, en tant qu'une éminence, est-ce qui lui a proposé ces noms-là?
Voilà, on ne sait pas.
Non, mais c'est pas lui, c'est M. Félix Tshisekedi.
Ça, c'est vous qui le dites. Nous ne le disons pas. Ça, c'est vous qui le dites parce que vous avez posé la question.
Il a proposé une gifle de 50.
Ça, c'est vous en tant que politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons Parole aux auditeurs avec vous, révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC. Vous venez de suivre cette longue série et des auditeurs. Il y a des appréhensions et également des gens qui soutiennent quand même la démarche, qui trouvent que finalement, il y a raison que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse s'impliquer et trouver, permettre à ce qu'on puisse débloquer cette situation. Alors, comment réagissez-vous, pasteur Eric Senga?
Merci. Je voudrais réagir à deux niveaux. Je crois que les compatriotes ont raison lorsqu'ils fustigent la politisation des confessions religieuses. Je crois que le terme est revenu par plusieurs fois. La simple façon de montrer à l'opinion que les confessions religieuses se sont réellement affranchies des pesanteurs politiques, à notre sens, et c'est la seule qu'on se trouve à deux niveaux. Au premier niveau, je crois qu'un de commentateurs l'a dit, lorsque les législateurs demandent aux confessions religieuses de proposer les candidats. Figurez-vous que le même législateur fait déjà la répartition des quotas pour la grande famille société civile. Il dit ceci, les confessions religieuses auront deux candidats, dont l'un comme président, l'autre comme membre de la plénière. La société civile spécialisée en matière électorale aura aussi deux, et puis la société civile spécialisée en matière des droits de l'homme, donc les femmes, aura un ou une candidature. Ça suppose que dans la volonté du législateur, les quotas est déjà réparti. Ce qui est réservé aux confessions religieuses a comme élément fondamental la caution morale. Pourquoi? J'insiste encore une fois. Le président de la CENI est censé être l'arbitre de la sincérité de la compétition électorale. Et la nation congolaise étant foncièrement religieuse, donne une place, comme l'ont dit les amis, des choix aux confessions religieuses comme de pères spirituels. Parce qu'ils sont censés faire ce qu'on appelle la mission prophétique, dire la vérité, dénoncer les mal et proposer des voies de sortie. Ce n'est pas un cadeau. Donc quand on considère que les confessions religieuses doivent proposer, et c'est là où j'ai rejoint un des auditeurs, il est important quand une confession propose la candidature, qu'elle s'assure d'abord que cette candidature a un lien historique, un lien doctrinal, un lien moral avec la confession. Parce que les candidats vont nous représenter. Il y a ce qu'on appelle la recommandation. Vous vous recommandez quelqu'un qui est votre ambassadeur dans une institution, même si vous n'allez pas les contrôler. Quel est le gage des garanties? Quelle est la garantie que vous aurez? Justement, ce sont ses valeurs morales. Parce que quand il sera dans une situation X ou Y, même si vous n'êtes pas avec lui, ce sont ses valeurs de sincérité, de courage, d'intégrité qui lui permettront de résister et d'accomplir à bonne fin sa mission. Donc, pour nous, il faut faire preuve de cela. Deuxième élément, vous avez entendu le CCLA Senco aller à une proposition, ce qu'on appelle en technique de médiation, les garanties de bonne foi. Lorsque vous ne trouvez pas consensus sur un point, pour passer d'un consensus échoué vers un nouveau, vers les conditions des possibilités d'un autre consensus, c'est ce qu'on appelle les conditions des possibilités dans le passage d'un consensus à un autre. Ce sont les garanties de bonne foi. Ces garanties consistent à quoi? Un, il faut éviter de présenter les candidats comme un élément inamovible. Lui ou rien. Un candidat de vie ou de mort. D'ailleurs, c'est cette attitude qui pousse encore les gens à émettre des doutes et à comprendre qu'il y a un « ça ne va pas ». Voulez-vous nous affirmer que tous les Congos n'ont qu'un seul Congolais capable d'organiser les élections 2023? Est-ce que ces Congolais, en dehors d'être président, ne peut-il pas accompagner le processus comme expert? Parce que partout où vous citez son expertise, il n'a jamais organisé les élections comme un pouvoir organisateur. Il a été observateur, il a accompagné les processus. Quoi de plus normal qu'il accompagne les processus congolais? Parce que nous, nous voulons de lui. Mais le problème, c'est que la responsabilité du président va au-delà de la technicité. L'essentiel pour nous, c'est la caution morale. Il faut mettre les gens...
On reproche à l'SSC et à la SENCO cette folie des grandeurs, ce complexe de Goliath, parce que vous avez des grandes églises, vous êtes dans une représentativité nationale, vous négligez les autres confessions religieuses, vous voulez vous accaparer la part du lion.
Et les droits de vote. Je m'adresse à J.R. Lungen, qui est un journaliste de taille. Je crois qu'il ne m'a pas entendu jusque-là parler de la grandeur, de faire un jugement des valeurs. Je suis dans un débat normatif. J'insiste. Tout ce que nous devons prétendre comme valable dans notre argumentaire doit avoir des assises claires. Et sur le plan des droits, il faut présenter les normes, pas le prétexte. Parce que là, nous allons faire des prétextes. Ils se disent grands. On a éteint la lumière, on nous a chassés. Ça, c'est des prétextes, c'est des dilatoires. Allons à l'examen des faits en termes d'éléments de droit. Et je reviens pour finir avec vous. J'entends sur la question de l'implication du président de la République. J'insiste encore une fois. Le président n'intervient pas ici parce qu'il veut faire plaisir aux uns ou condamner les autres. Non. Nous avons dit c'est à deux niveaux. Dans la procédure institutionnelle, c'est lui qui prend l'ordonnance, en dernière instance. Ça, c'est en sa qualité du président de la République comme institution. Mais deuxièmement, l'article 69 de la Constitution lui confie des devoirs constitutionnels de veiller surtout à l'unité nationale, à l'arbitrage des bons fonctionnements de nos institutions. Donc, de ces deux points de vue, on doit éviter de penser que nous allons vers le chef de l'État parce qu'il aurait une quelconque solution. C'est pas lui qui a la solution. La solution est prévue dans la loi. La loi dit ceci, ne peut être candidat président que celui qui remplit telle condition. Mais l'article 10 est clair. Il faut qu'on lise l'article 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Pourquoi on ne veut pas aller dans le débat sur le fait? Je vais chuter sur ceci. Aujourd'hui, on est en train de parler des qualités. On ne veut pas parce qu'il est de l'espace régional. Mais lorsque les deux confessions, encore et c'est la CENCO, ont dénoncé sur le cas Malonda. Malonda n'est pas de l'espace géographique, Kadima. Malonda n'est pas moins compétent que Kadima. Mais nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle changement de paradigme. Mmh. Assumons notre passé commun. Il y a eu des erreurs. Personne ne peut dire que moi je suis parfait, moi je suis saint. C'est notre histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique des...
Alors, on peut conclure que l'ESSC et la SENCO veulent à tout prix, redorer leur image, ternie, parce qu'ils ont proposé, depuis Malou Malou, Ngoï Moulunda, Nanga, la société civile aujourd'hui, en fait, c'est un aveu d'échec. Et vous passez au bénitier pour vous laver.
D'abord, la SENCO comme institution n'a jamais soutenu la candidature de l'abbé Malou Malou. De reste mémoire, vous vous rappellerez que c'est d'ailleurs la seule confession contre toute à l'époque qui avait dit non à la candidature
de Malou Malou.
Des deux, l'ESSC n'a jamais présenté en tant qu'institution. Il faut faire la différence. Si Eric Senghor, en tant qu'individu, parce qu'il est protestant, donne un avis, vous ne pouvez pas rendre l'avis d'Eric Senghor un avis institutionnel. Pour parler au nom de l'ESSC, l'ESSC est une institution qui fonctionne sur trois organes importants. Les synodes nationales, le comité exécutif national et le président national. Ça, c'est un. Même s'il y a eu erreur d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas prendre l'erreur d'un individu comme l'erreur institutionnelle. Je vais chuter pour dire, monsieur le pasteur Ngoï Moulunda a été présenté sur la liste du PPRD. Parce que la loi 2015 qui a conduit jusqu'aux élections de l'époque ne donnait pas aux confessions religieuses le pouvoir de présenter les candidats. C'était le parti politique. Monsieur le professeur Ndjoli l'a été comme vice-président, comme membre MLC. Le pasteur Ngoï Moulunda, quoique pasteur protestant soit-il, ce n'est pas l'institution Église du Christ au Congo qui l'a présenté en tant que tel. Donc ça aussi, c'est une manière de corriger l'histoire. Maintenant, est-ce que c'est un aveu de chef? Nous disons non, c'est une responsabilité. C'est notre pays. Nous devons arriver à nous arrêter quelque part. Mais c'est ce que je rappelle ici. Quel est le sens des consultations du chef de l'État de novembre dernier? Pourquoi a-t-il appelé la nation autour de lui pour présenter les éléments susceptibles d'améliorer la gouvernance du pays? N'est-ce pas que sur les 8 points cités par les chefs de l'État, figurait la question
de la justice,
du processus électoral? Est-ce que vous avez oublié que la majorité parlementaire a été réqualifiée et que le bureau Mabunda a été tombé simplement parce qu'on n'a pas voulu prêter l'oreille à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire.
Merci beaucoup, pasteur, révérend pasteur Eric Senka. On va écouter les autres auditeurs et puis on va revenir à vous pour avancer et conclure. Alors, on prend Amos. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution, Amos?
Au fait, je pense que notre pays continue à faire la honte en suivant de tels débats. Parce que nous tous, nous devons d'abord nous entendre sur un seul point. La CENI est une institution d'appui à la démocratie et la CENI devrait être apolitique. Mais quand on est en train de suivre les débats autour du président de la CENI, on est en train de constater avec regret que cette institution est en train d'être politisée à un niveau là indiscutable. Et c'est très dangereux pour la démocratie dans notre pays. En suivant le débat qui a été fait entre les 6 confessions là, la CENCO et l'ESSC, on se demande est-ce que réellement nous avons des hommes sauvés dans notre pays? Parce que ce sont les confessions religieuses qui devaient aller au-dessus de la mêlée et éviter les discussions politiques. Mais on constate avec beaucoup de regret que même les confessions religieuses sont manipulées par les politiques. On a vu comment Ronsard Malonda a été élu, il a été contesté, et chose grave, l'IDPS l'avait beaucoup contesté. Mais en analysant, vous allez constater hier que Malonda et...
Amos, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans la théocratie, nous sommes dans la démocratie, la loi de la majorité.
La loi de la majorité, mais on a fustigé la corruption, et je me souviens, vous avez suivi, que la CENCO et l'ESSC ont dit il faut rencontrer le président pour démontrer même les preuves.
Alors comment jugez-vous cette démarche? Comment jugez-vous cette démarche? Comment jugez-vous cette démarche de la CENCO et de l'ESSC?
Non, c'est une bonne démarche parce que le chef de l'État reste le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République.
Et mais
La question que je pose à l'FCC, à la CENCO, si du moins la présidence serait aussi impliquée dans cette corruption, comment ils vont se comporter par la suite?
Alors comment jugez-vous comment jugez-vous la démarche de six autres confessions religieuses qui sont allées voir l'Assemblée nationale et qui ont même déjà déposé les PV?
Moi, je pense que aussi c'est de leur droit, mais on se demande pourquoi Dodo Kamba soutient Kadima au moment où on sait comment Dodo Kamba a été élu à la tête de l'église des réveils.
Mais Dodo Kamba ne soutient pas Denis Kambaï. Pour ne pas citer, on ne fait pas le jugement de valeur ici. Non, lui ne soutient pas. Lui ne soutient pas. Il est passé à l'unanimité, la majorité a voté pour Denis Kadima.
Justement, on a dit que la majorité a voté pour Kadima. C'était la même problématique pour Ronsard. Moi, je pense que les gens devraient comprendre que le même problème qu'on a connu pour Ronsard, c'est le même problème qu'on a en train
merci,
de connaître.
Merci beaucoup, Amos. Alors, on va demander à Alidor de placer aussi un mot. Maître Alidor, on n'a plus assez de temps. Je crois qu'on risque de nous répéter. Maître Alidor, quel est votre élément de complément?
Oui, monsieur Juer, bonjour à vous. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi. Je m'en vais d'abord rappeler une disposition du Code civil congolais, livre 3, qui dit ceci, c'est l'article 33. Les conventions légalement formées tiennent lien des lois à ceux qui les ont faites. Et un brocard latin dit ceci, c'est Rwanda. Les pactes sont faits pour être respectés. Les confessions religieuses étant régies par la charte des confessions religieuses. Et que cette charte dispose que, en cas de non-consensus, l'on doit procéder au vote du candidat président de la CENI. Et que c'est pratiquement ce qui a été fait. On a procédé au vote. 6 des 8 confessions religieuses ont eu à jeter les dévolus sur la personne de Denis Kadima. Donc à ce stade, il n'y a aucun débat.
Le débat est clos, selon vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors on revient à vous, révérend pasteur Eric Senga. Est-ce que le débat est clos après ces votes des six confessions religieuses?
D'abord à notre ami Alidor. La charte à laquelle on fait allusion n'a pas qu'un seul article. Il faut éviter de faire le prétexte dans une lecture herméneutique lorsqu'il s'agit du droit. Nous sommes dans une herméneutique juridique. On ne peut pas commencer à réduire toute la charte avec un article déjà mal lu et mal interprété. Voilà ce que dit l'article 17 de la charte en son alinéa 2. Les consensus et les modes par excellence. En cas de non-consensus, on passe par un vote transparent conformément à l'article 8 qui postule des valeurs défendues. Il ne faut pas limiter la lecture quelque part parce qu'on veut faire le prétexte. Personne n'a évité ou refusé les votes. Mais j'ai pris tout le temps à expliquer ici. Il y a 3 conditions pour aller au vote. Il faut rentrer dans le critère d'éligibilité. On ne peut pas avoir 4 candidats. On est en train d'analyser. Le grief se pose sur un candidat. Vous voulez contourner la question principale ou préjudicielle parce que vous avez un candidat totalement à défendre. Mmh. Ça, c'est un. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. J'ai corrigé seulement pour dire la charte a aussi l'article 8. La charte a aussi l'article 16, 17, 18. Alors, il faut lire
dans la combinaison
de ces articles pour sous-tendre un développement argumentatif bien fondé. Les deux, je finis par là. Si, ça c'est une question importante, si le président de la République s'avérait aussi... Bon, je ne veux pas aller dans le sens de notre auditeur. Lui, la liberté que moi, je n'ai pas. Je suis tenu de certaines obligations. Mais je pense que notre démarche ici doit nous amener à comprendre que la question de la CENI relève de la souveraineté nationale. Même le président de la République est soumis, est soumis aux règles juridiques de notre pays. C'est pas pour rien, il est soumis à un juge naturel. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans les totalitarismes et dans le régime politique congolais. Nous sommes dans un régime qui se veut de droit. C'est le fondement de la Constitution en son article premier. Nous sommes un état des droits. Que veut dire l'état des droits? C'est l'organisation de l'État sur la base des normes juridiques. Donc ici, nous ne faisons pas du président de la République au-dessus de la Constitution. C'est plutôt cette Constitution qui lui donne l'obligation en son article 69 de faire ses rôles. Donc nous ne dépendons pas de son appréciation en tant que personne, Félix Tshisekedi. Nous attendons son appréciation comme institution présidente de la République et qui doit obéir aux devoirs constitutionnels. Donc pour nous, je vais chuter pour dire, nous restons ouverts. Ce n'est pas que les confessions veulent la division. Nous sommes des religieux, le problème nous tient tous à cœur, mais les soucis restent valables. Nous ne pouvons pas faire des raccourcis pour faire plaisir aux gens. Les élections de 2023 sont d'un enjeu très crucial pour l'avenir de notre pays.
Vous avez, est-ce que la correspondance adressée à la présidence de la République, vous avez réservé une suite favorable?
Il y a déjà des discussions très avancées avec lui-même d'ailleurs, le président qui est toujours ouvert. Je n'ai jamais vu le président refuser une correspondance quand on les sollicite. Donc il y a déjà des discussions. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous
vous
pourrons d'ici la semaine, si les choses se passaient bien, s'approcher vers des voies de solution.
Pasteur Eric Senga, porte-parole de l'SCC, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et d'honorer les auditeurs qui ont participé dans cette émission. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. C'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. À bientôt.